Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Une grogne sociale sévit depuis quelques jours au Mali. Des manifestations se multiplient et s'intensifient à travers le pays. Au nord du Mali, les populations se sont révoltées contre la police de Diré dans la région de Tombouctou, alors que les habitants de Gao demandent le départ du gouverneur de Gao de la région. Dans la région de Sikasso, au sud du pays, les soulèvements populaires ont permis le départ du juge de la localité. Alors, qu'est-ce qui explique cette révolte de la population? Quelles sont les conséquences de cette grogne sociale sur le pays? Qu'est-ce qui peut être mise en place pour mettre fin à ce phénomène? Nos invités, Youssouf Tira, préfet de Kolondieba, Sidi Mohamed Ag Ishrach, gouverneur de Kidal, Dr Abdoulaye Sall, président de CRI 2002, et Dr Etienne Fakaba Sissoko, directeur du centre CRAPES. Je suis Mohamedou Touré, à la mise en onde, Salim Diouara.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, je rappelle que nos tentatives pour avoir un responsable du ministère de l'administration territoriale à ce débat sont restées vaines. Alors nous allons déjà commencer à écouter les réactions dans ces trois localités, Diré, Kolondieba et Gao, sur la situation.
Ces manifestations sont dues à des incompréhensions entre la jeunesse et la police par rapport à leur raf de l'après-midi et de la nuit. Surtout les derniers événements, c'est ces derniers temps. Il y a des femmes qui accouchent devant l'hôpital qui fait face même à la police qu'on empêche de rentrer. Souvent, il y a des gens aussi, quand ils vont à l'enterrement souvent, les dernières personnes sont raflées également et gardées à la police. Souvent, ce qui a surtout traqué l'agence de Diré, c'est le mot collage. Les policiers ont pris le mot collage. Même s'ils trouvent deux personnes, un homme et une femme, dans la rue, on vous ramasse, on dit collage. Voilà, ça a perdu à Diré toute sa renommée. Parce que c'est des trucs qu'on ne connaît pas. C'est des trucs comme ça qui ont créé le scandale ces derniers temps. Depuis trois jours, la situation est complètement normale.
Depuis fort longtemps, la population de Kolondieba observait le travail du juge de paix à compétence étendue de la dite localité. Un certain Yaouba Doumbia est venu se vanter aux yeux de tous en disant qu'il va faire lire le juge entre les lignes, que toute porte fermée avec de l'argent ne peut s'ouvrir qu'avec de l'argent. Avant l'acte du juge, le lendemain, ce qu'il a déclaré dans les rues a été concrétisé par le juge. Alors la population de Kolondieba et environ se sont levés à travers la chefferie de Coutinière aller dénoncer les mauvais agissements du juge. Ce n'était ni la première ni la seconde. Des cas similaires se sont présentés.
Au départ du gouverneur de la région de Gao, nous avons réclamé pour son manque de respect pour les gens, pour les populations, pour son manque de considération pour les communautés, pour sa cupidité envers toutes les personnes, n'importe quelle personne.
Alors le gouverneur de Kidal vient de nous informer qu'il a une réunion alors qu'il avait confirmé sa participation à ce débat. Nos invités sont désormais Youssouf Tira, préfet de Kolondieba, Dr Abdoulaye Sall, président de CRI 2002 et Dr Etienne Fakaba Sissoko du centre CRAPES. Alors monsieur le préfet de Kolondieba, Youssouf Tira, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qui explique ce soulèvement populaire dans votre localité?
Bon, le soulèvement, en tout cas au niveau du Kolondieba, vous savez, hein, c'était des agissements contre le juge. Ça s'est fait depuis il y a plus de deux semaines. Hein. Alors, c'est maintenant que on est en train de faire apparaître ça dans les journaux. C'est une même surprise. Ça, c'est déjà fini là. On a pu trouver vraiment une solution au problème que vous venez d'évoquer là. Est-ce que vous voyez? Sinon, ça c'est le problème de juge, ça c'est déjà résolu il y a très longtemps. Voilà.
Oui, mais qu'est-ce qui explique que cela puisse se faire dans votre localité?
Hein?
Qu'est-ce qui explique cela?
Bon, vous le savez, hein, déjà, vous connaissez déjà. Les gens ont largement expliqué le fond. Donc, je pense que c'est pas la peine que moi je reviens là-dessus. Voilà.
Docteur Sall, vous êtes le président de CRI 2002. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui explique ce soulèvement populaire à travers le pays?
Bon, dire que je vais expliquer ce qui explique. Je préfère le concept de grogne que de soulèvement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Mali, c'est 703 communes.
Tout à fait.
C'est extrêmement important. Et vous venez de me citer quatre communes.
Nous avons cité trois localités.
Voilà, trois localités, trois communes. Mm-hmm. J'ai dit même trois communes du Mali. Donc il faudrait d'abord replacer ces différents problèmes dans leur...
Il ne faut pas oublier également, Dr Sall, la question de révision constitutionnelle également.
Non, mais comme on ne traite pas de la révision constitutionnelle, sinon vous pouvez bien
réviser. On parle de grogne sociale déjà.
Voilà, on parle de grogne sociale. Et vous voyez bien ce que vient de dire le préfet de Colondiaba, qui dit que c'est une affaire déjà réglée, parce que ça fait deux semaines ou trois semaines que le problème, qu'il y a eu ce problème au niveau de sa localité, et que c'est aujourd'hui qu'on soulève cela.
Si le problème a été réglé à Colondiaba.
Oui, je vais vous dire, c'est-à-dire que vous savez, on est dans un état de droit. Mmh. Et quand vous êtes dans un état de droit, on vous dira toujours qu'il y a l'opposition et la majorité. Vous comprenez très bien.
Tout à fait.
Et donc ça veut dire que quand on dit qu'on est dans un état de droit et qu'on veut faire une construction démocratique, républicaine et patriotique, il va toujours avoir des conflits. C'est comme les dents et la langue. Il arrive que les deux s'accrochent, mais sont condamnés à vivre ensemble. Je veux dire seulement que nous sommes en construction démocratique. C'est pourquoi je dis toujours que la démocratie en tant que telle est un idéal. Personne ne peut dire j'ai attrapé la démocratie. Ce que l'on peut attraper, c'est peut-être le problème de développement local et régional. Et quand vous dites l'État, je dis toujours aux uns aux autres que l'État, c'est pas le gouvernement, l'État, c'est pas l'administration. L'État, c'est trois éléments constitutifs, c'est un pouvoir politique, c'est une population et c'est un territoire. Donc s'il y a des événements sporadiques comme ça dans des localités différentes, dans trois localités différentes de notre pays, c'est dire que dans ces localités, il y a certainement des dysfonctionnements dans les relations entre pouvoir politique, entre population et entre territoires. Et il y a plusieurs manières de traiter de telles problématiques. Il y a la manière de ce qu'on appelle les mécanismes traditionnels.
Docteur Sissoko, selon vous, qu'est-ce qui explique la révolte des populations de ces différentes localités?
De façon générale, il faut reconnaître d'abord que c'est une question de gouvernance. Ce sont les problèmes de gouvernance qui aujourd'hui expliquent en partie les problèmes que nous rencontrons justement entre les administrés et les administrateurs de façon générale. Des problèmes parce que il y a une répartition inégale des ressources sur l'ensemble du pays et entre les personnes qui vivent sur le pays. Parce que, encore une fois de plus, une minorité s'accapare des richesses du pays, s'accapare des pouvoirs politiques du pays, s'accapare des leviers de gestion.
Vous voulez parler des gouvernants?
Une minorité, en tout cas ceux qui ont un pouvoir de décision, qui ont un pouvoir d'agir sur le devenir des concitoyens. Dans le cas des communes, dans le cas des arrondissements, on parle des préfets, on parle des juges, on parle des magistrats de façon générale. Toutes ces personnes aujourd'hui à qui on a légué un pouvoir, mais qui dans la pratique aujourd'hui s'adonnent à des faits contraires à l'éthique, contraires à tout ce qui est satisfaction des besoins prioritaires des populations. Et donc l'exacerbation de ces inégalités-là font que les populations à un moment donné se trouvent acculées et sont obligées de réagir. Et le plus souvent, on a l'impression que dans notre pays, malheureusement, qu'il faut agir par la force pour se faire entendre. Parce que chaque fois que les moyens diplomatiques ont été utilisés, chaque fois que les leviers traditionnels avec les chefs traditionnels et autres ont été utilisés pour régler les conflits, ce n'est que déplacer le problème parce que plus tard, on a vu que ces mêmes chefs traditionnels ont été instrumentalisés ou ont rendu des situations paisibles pour un temps, mais qui se sont aggravées plus tard. Donc aujourd'hui, les jeunes surtout et les pouvoirs politiques de façon générale ne s'entendent plus. Parce que les uns ont l'impression d'être torpillés par les autres. Et aujourd'hui, c'est ce qui explique en partie ce que nous voyons justement à travers notre pays.
Mmh. Alors, Monsieur Tira, un habitant de Colondiaba vient de le dire que le juge a fait des choses dont la population n'a pas, accepté plusieurs fois. Pourquoi l'État n'a pas réagi? Pourquoi vous n'avez pas réagi depuis?
Moi, j'ai réagi. Si je n'avais pas réagi, je ne serais pas là.
Et qu'est-ce que vous avez fait?
Voilà. J'ai tout mettre en œuvre pour vraiment éteindre vraiment ce problème.
Voilà. Ce comme problème, quoi, comme quoi
qu'on a pu, le problème qu'on a pu résoudre, c'est un problème déjà résolu par l'administration.
Mais expliquez-nous déjà qu'est-ce qui s'est passé.
Bon, moi, je ne veux pas rentrer dans les détails, comme déjà vous le savez. Alors, par les journaux, il y a l'essor qui a fait apparaître ça, et aussi bien que, je crois,
il n'est pas là. Monsieur Théra, voilà. Pourquoi vous ne voulez pas rentrer dans les détails?
Oui, parce que déjà, vous connaissez déjà le fond du problème. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer.
Voilà. On va écouter déjà Monsieur Macron, Emmanuel Macron, lors du sommet du G5 Sahel, qui a fait une déclaration. Donc, on va écouter une partie de son discours.
Voilà.
Monsieur le Président Keïta, cher Ibrahim, chers amis, les risques sont là. Mais nous avons un choix simple à faire, dont nous sommes tous et toutes ici, dans cette salle, les co-dépositaires. Soit nous pouvons considérer qu'on va faire comme avant, ne pas parler des vrais problèmes, faire semblant de faire, évoquer le passé glorieux ou les pages sombres, et en rester là. Nous mentir et mentir à nos populations, puis prendre des airs de victimes quand nous sommes attaqués. Nous pouvons continuer longtemps à faire cela, nous l'avons déjà fait longtemps ensemble. Alors nous serons battus. Soit ensemble, nous faisons le choix de procéder différemment, de nous dire toujours les choses, qu'elles fassent plaisir ou pas, d'être exigeants les uns avec les autres, parce que nous considérons que notre avenir est commun. Moi, j'ai fait ce choix parce qu'il n'y en a pas d'autre. Parce qu'aujourd'hui, nos promesses ne sont plus entendues. Parce que pour beaucoup de jeunes dans le nord du pays, les seules opportunités sont devenues les trafics. Nous devons agir sur le terrain, au plus près des populations. En tant que président d'un pays ami, partenaire historique du développement de la région du Sahel, je ne veux pas me cacher derrière des mots. Je veux des actes.
Docteur Sall, est-ce que ce discours ne répond pas au préfet tout de suite qui dit...
Non, mais moi, c'est ce que je vous disais. Je vous disais d'abord qu'il ne faudrait pas délocaliser ces problèmes. C'est dans des communes. Et quand vous dites commune, il y a trois critères pour la création d'une commune. C'est le vouloir vivre ensemble. C'est les liens de solidarité et c'est le développement économique et social. Mais si on se trompe en disant que c'est un juge ou un préfet ou je ne sais qui... de l'administration publique qui vont sortir ces localités de l'ornière, on s'y trompe. Parce que vous prenez Kolondieba est à la fois circonscription administrative et collectivité territoriale. Et en tant que circonscription administrative, le représentant de l'État, c'est le préfet. Mais en tant que collectivité territoriale, mais c'est les élus de Kolondieba. Si je dis élus, je ne parle pas des élus nationaux, je parle des élus des collectivités territoriales. Je parle du maire, du conseil communal. Mais jusque-là, j'ai pas entendu que ces acteurs ont été impliqués pour chercher des solutions à tous ces problèmes qui se posent. Parce qu'en matière de gestion des conflits, il faudrait pas oublier qu'il y a trois éléments aussi. Il y a la prévention. La prévention, c'est quoi? C'est pareil, un système d'information approprié avant qu'on rentre dans la gestion. Et après la gestion, quelles sont les dispositions à prendre pour la non-répétition de ces conflits? Et je pense, comme le préfet vient de nous le dire, le problème semble être résolu, mais il faudrait déjà qu'on pense à trouver des outils qui permettent la non-répétition, n'est-ce pas, de ce conflit. Et je connais bien les celles de Koutiala et de Sikasso. C'est pourquoi j'ai amené cette brochure que nous avons produite en 97. Vous prenez Kolondieba, les questions foncières sont dedans. Quels sont les systèmes à mettre en place pour cela? Mais il faut qu'on comprenne que...
Mais ne nous limitons pas simplement à Kolondieba. Ben il y a le cas...
Si je prends Diré, quand tu parles du préfet, c'est l'État. Quand tu parles du juge, c'est l'État. Quand tu parles de la police, c'est l'État. Donc c'est les missions régaliennes de l'État. Et les garants de ces missions régaliennes de l'État, ce sont les représentants de l'État. C'est ce que je veux dire. Mais le garant du vouloir vivre ensemble des collectivités territoriales dans chacune de ces localités, mais c'est les élus des collectivités, c'est les populations, c'est les autorités traditionnelles, c'est ce que j'ai en train de dire. Même au temps colonial, quand il y a des conflits, quand les populations allaient voir les commandants du cercle blanc, leur demandent d'avoir, est-ce que vous êtes allé voir les autorités traditionnelles? Si vous ne l'avez pas fait, allez les voir.
Alors, quelle a été l'implication de ces autorités traditionnelles par rapport à cette problématique? Quelle a été l'implication des élus des collectivités, le conseil communal? Vous allez pouvoir voir même les bureaux des conseils communaux, vous allez voir qu'il y a un maire qui s'occupe de la résolution des conflits au niveau des communes. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe. L'État, c'est les trois éléments constitutifs. La circonscription administrative, c'est le contenant. Mais le contenu que l'on met là-dedans, ça c'est les collectivités, c'est-à-dire les populations avec leur structure formelle, non formelle, traditionnelle, moderne. Et c'est de ça dont je te parle. Tous ces conflits que moi j'ai entre tout ce que j'ai lu dans les journaux, je n'ai vu nulle part que les élus locaux aient été impliqués ou que les populations, en tout cas les sages ou les médiateurs qui peuvent se trouver au niveau de ces collègues, ont été impliqués. Donc il faudrait changer. Macron n'a pas dit autre chose. Il dit seulement de changer. N'est-ce pas de la façon
de dire la vérité, d'éviter de faire semblant.
Que nous, en tant que citoyens aussi, qu'on ne se dise pas que nous ne sommes pas État. C'est ça. M. Terra est aujourd'hui à Kolondiéba, mais demain, il peut être muté à Kaï. Mais est-ce qu'on peut muter le président du conseil de cercle ou les conseillers de cercle de Kolondiéba ou les maires? Non, ils sont là parce qu'ils sont là pour servir les collectivités. C'est ce que je veux dire. Je dis que ce n'est pas une affaire de l'administration en tant que telle. C'est une administration à la fois de l'État, des collectivités territoriales, des populations et des moyens que nous avons également.
Est-ce une mauvaise gouvernance?
Non, bon, disons, c'est-à-dire qu'on n'a pas créé les cadres de constatation qu'il faut. Ce n'est pas seulement au niveau de Kolondiéba qu'on a, ou de Diré, etc. Mais il faut qu'on comprenne qu'il y a circonscription administrative et qu'il y a collectivité territoriale. Et que tant que les élus...
Vous aurez la parole.
Voilà.
Docteur Sissoko, voilà. Par rapport à la déclaration tout de suite de M. Tiré, qu'il ne veut pas rentrer dans les détails, et quand Macron nous dit effectivement que les détails sont importants, il faut dire la vérité. Que pensez-vous de ces deux déclarations?
Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons la responsabilité d'être honnête envers nous-mêmes, d'être honnête envers les populations. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en cause, ce n'est pas que un problème entre les populations. C'est vrai, ce sont les problèmes entre les populations qui sont transportés devant l'État, devant les juges, devant devant l'État de façon générale. Mais c'est la mauvaise gestion justement de ces problèmes transportés qui font aujourd'hui que nous sommes dans une crise. Et on a tort aujourd'hui de nous limiter simplement à ces localités parce que ces localités ne sont en réalité qu'à l'image de l'ensemble du pays.
Tout à fait.
Et la gouvernance que nous avons, le comportement que nous avons de nos autorités au niveau local, de nos préfets, de nos juges au niveau local, est le reflet exact de ce que nous avons au niveau national. Donc, je rejoins Macron pour dire que nous avons la responsabilité de dire la vérité, toute la vérité, mais aujourd'hui, nous avons l'impression qu'on se cache justement derrière un certain climat social. Moi, je suis très réfractaire de l'implication, face à l'implication des autorités traditionnelles dans certains problèmes, parce que je le crois fermement, ça ne contribue qu'à déplacer le problème et non à le régler. Face à certaines situations, l'État doit s'assumer. Et nous devons nous assumer à travers justement les leviers institutionnels, les leviers juridiques que nous avons. La loi est très claire sur un certain nombre de questions. Aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe dans la région de Kolondiéba, moi en tout cas, je n'ai pas entendu qu'il y ait eu une sanction administrative contre ce dernier. Même si le préfet refuse de rentrer dans les détails, ce que les journaux, si l'on s'en tient à ce que les journaux nous rapportent, il est clair qu'il a fauté, il doit être sanctionné. Et cette sanction, aujourd'hui, nous l'attendons. Et donc, vous voyez, quand vous laissez passer ces injustices-là une fois, deux fois, trois fois, vous voyez que vous contribuez à remonter les populations contre vous. Et le jour où la colère des populations va se manifester, c'est ce jour que nous allons commencer à prendre des décisions. Alors, nous serons des pompiers en ce moment. C'est pourquoi je suis d'accord avec Dr Sall que la meilleure façon de lutter contre cette grogne sociale, c'est d'abord la prévention. Et au-delà de la prévention, une gestion efficace des conflits. Et en ce moment, le rôle précis des autorités traditionnelles pourrait être défini. Mais aujourd'hui, il faut déjà que l'on ait conscience qu'il y a problème. C'est que le souci véritable, c'est cela. C'est que nous sommes dans le déni. Nous ne reconnaissons pas véritablement qu'il y a un fossé qui s'est creusé et qui continue de se creuser entre les autorités administratives, pour ne pas dire l'État, et les populations de façon générale.
Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise gouvernance?
Absolument. C'est ce que j'ai dit. La mauvaise gouvernance, c'est le résultat de la mauvaise gouvernance que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les inégalités que nous sommes en train de voir, les abus de pouvoir que nous sommes en train de voir, les décisions politiques souvent mal inspirées que nous sommes en train de voir, ne sont en réalité que le résultat de la gestion catastrophique que nous sommes en train de faire de notre État. Sont le résultat de la très mauvaise gouvernance que nous sommes en train de faire. Et nous sommes aujourd'hui en train de nier ce fait-là. Et donc, tant que nous continuons à nier ce fait, il est clair que nous ne trouverons pas les solutions idoines à ces différentes difficultés.
Monsieur Théra, vous venez d'entendre le discours de une partie du discours de Monsieur Macron par rapport à cela, qui interpelle l'État à ne plus faire semblant, à dire la vérité. Est-ce que toujours vous voulez pas rentrer dans les détails?
Moi, je suis représentant de l'État. Par rapport à la justice. Je crois que la justice est indépendante, vous le savez. En tant que représentant de l'État, je pense que vraiment, je n'ai rien à dire.
Mais justement, c'est les habitants de Kolondieba reprochent au juge de ne pas avoir été indépendant.
De toutes les façons, ça n'engage que la population en ce moment.
Alors, pourquoi le juge est donc parti?
En tant que l'administration, nous, on fait... convenablement notre travail. Hein.
Oui, mais pourquoi le juge est parti? Voilà. Vous dites que la situation a été résolue.
Bon, j'ai dit que c'est résolu. C'est à vous d'apprécier. Vous êtes déjà au courant des faits. Alors, pourquoi encore me poser des questions de réponse? Déjà que vous le savez déjà.
Je n'ai pas de
réponse à vous
donner. Merci, Monsieur Théra.
Je vous dis, il est représentant de l'État, il s'occupe de la tutelle. Il peut être muté. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je travaille beaucoup à l'intérieur. Peut-être les populations de Yorosso, de Tomignan, de San, de Bla, de Baraouli, ils m'écoutent. Quand nous avons tenu des ateliers là-bas, dans la salle, mais les élus étaient confondus à la population. Mais les préfets, les sous-préfets étaient dans leur tenue. J'ai demandé dans la salle, mais qui parmi vous, qui sont les élus et qui ne sont pas élus? Mais j'ai exigé à chacun d'eux à porter leur écharpe pour qu'on sache qu'ils sont élus. Parce que il faut jamais faire croire aux populations que c'est de Bamako qu'on va régler les problèmes des populations au niveau local. Quand on est élu national, député ou conseiller national ou au conseil de l'église, on est député. Par exemple, vous prenez le député élu à Kaï, il n'est pas député de Kaï, il est député à Kaï. Parce qu'il s'occupe des questions nationales. Mais quand vous êtes maire élu, vous n'êtes pas maire élu à Kolondieba, mais maire élu de Kolondieba. Donc vous devez prendre en compte et en charge les problèmes de Kolondieba, de Diré ou de Gao. Il faut que cela soit clair. La tutelle est là pour la représentation de l'État, les missions régaliennes de l'État, mais tout ce qui concerne le vouloir vivre ensemble, le fait de prendre en compte et en charge la formation, l'éducation citoyenne, n'est-ce pas?
Est-ce qu'il n'y a pas un problème de confiance également quand la
population... Non, j'ai dit que chacun doit jouer son rôle.
Est-ce que la population a aujourd'hui confiance à la justice malienne?
Les maires ne sont pas des représentants de l'État.
Là où moi je ne vous suis pas, c'est qu'aujourd'hui, les trois critères que vous définissez sont indéniables pour définir l'État.
Mais la commune d'abord.
Non, de l'État. L'État de façon générale. Le territoire de l'État. Et donc quand vous prenez ces trois éléments, on est d'accord sur ces trois éléments. Mais aujourd'hui, il faut dire que dans les composantes de l'État, nous ne dissocions pas les collectivités territoriales de l'État. Nous disons que l'État, c'est d'abord l'administration publique de façon générale. Et nous disons que les collectivités territoriales sont une composante également de cet État-là de façon générale. Donc aujourd'hui, lorsque nous pointons du doigt doit la responsabilité de l'État, il ne s'agit pas simplement du préfet. Il s'agit également des maires et de toutes les autres responsabilités qui doivent être situées au niveau des collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, moi je souhaite que le préfet comprenne que ce n'est pas lui qui est en cause, ce n'est pas lui qui est visé directement, mais c'est simplement une gestion dont il a la charge, et ce sont les résultats de cette gestion-là qui font aujourd'hui que dans sa localité, mais aussi partout au Mali, nous sommes confrontés à des problèmes. Je suis désolé de...
Non, moi je suis d'accord avec toi, mais je te renvoie au titre 11 et 12 de la Constitution du 25 février 92, qui parle de la libre administration des collectivités. Les collectivités sont des personnes morales comme l'État. Il faut que cela soit clair. Vous comprenez? Hein? C'est pourquoi la libre administration des collectivités, c'est pourquoi il y a des élus au niveau des collectivités. C'est pourquoi je vous ai dit que vous êtes maire ou président du conseil de cette...
Qui représente l'État en première position?
Le représentant, si vous prenez par exemple les conflits par rapport aux terres, mais les terres se trouvent où? C'est au niveau des collectivités. Qui gère en réalité les terres au niveau des mairies? Et les terres qui sont également gérées à travers les us et coutumes. C'est pas à travers les autorités traditionnelles coutumières.
Mais bien vrai, vous comprenez, le maire à Kolondjeba, par exemple, c'est pas, est-ce que non, à Gao, par exemple, c'est pas le gouverneur qui est le premier responsable?
Un maire qui constate que dans sa localité, le juge, je dis même pas le juge, certain, parce que moi je suis contre le fait qu'on dise chaque fois la justice est corrompue, la police est corrompue, la gendarmerie. Non, on peut dire que des juges sont corrompus. On peut dire que des policiers sont corrompus, des gendarmes sont corrompus. Mais qu'on prenne des institutions de la République les traiter de corrompus.
Ce sont les mêmes acteurs.
Non, je suis contact national de transparence. Je sais de quoi je parle. Dans nos pays, quand on dit même l'État est corrompu, mais c'est certain. Fils du pays qui sont corrompus. Et il faut chercher à les extirper du lot. C'est ça le grand problème. Mais si, à partir de Bamako, nous pensons régler le problème des collectivités territoriales à leur place, on se trompe, parce que les populations ne nous ont pas élu, nous, ici à Bamako, pour gérer leurs affaires, leur vie quotidienne. N'est-ce pas? Leurs droits et devoirs. Okay. Mais leurs droits et devoirs.
Je prends les maires. Autant rendre effective la décentralisation.
J'ai lu le maire de ma commune, pourquoi? C'est pour qu'on s'occupe, par exemple, de la construction des classes, d'éducation de nos enfants. C'est pourquoi on a donné l'enseignement fondamental, le premier cycle, aux mairies.
Monsieur Sall, on va écouter la réaction de certains observateurs par rapport à cette question.
Voilà. Lorsqu'on ne communique pas, le malaise s'installe. Lorsque l'homme se sent dans une certaine situation, il est capable de tout. Sinon, ces soulèvements ne sont pas la meilleure des manières. Le soulèvement, c'est un dernier recours.
Pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de faire. Parce que au moins, la communauté internationale qui est au chevet des autorités maliennes sauront que les populations du Mali ne sont pas d'accord avec ceux qui sont en train de concocter et de mettre en place concernant la gestion de notre pays. Le pays nous appartient quand même.
Moi, je pense que plutôt que de s'inquiéter, c'est un phénomène qui renforce notre démocratie, qui prouve que dorénavant, les Maliens, principalement les jeunes, sont en train de se réveiller et qui prennent à bras le corps les questions qui concernent la nation, les questions qui concernent leur localité, et les questions qui concernent aussi surtout l'administration et la gestion des affaires publiques.
Monsieur Théra, quelles sont les conséquences de cette grogne sociale sur le pays?
La réponse que je peux vous donner, vous savez, moi je représente l'État comme je viens de le dire, hein, et la justice est indépendante. La justice ne relève pas de l'administration. Directement. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est un pouvoir à part. OK.
Mais les conséquences?
Bon, les conséquences, c'est à vous d'apprécier. Hein? Vous le savez.
On va demander l'avis de Dr Sall.
Non, Dr. Moi, c'est-à-dire que les gens sociale. Sont en train de s'agiter. Tout ce que nous voyons aujourd'hui se passer en République du Mali, cela révèle la vitalité de notre démocratie. Fakaba. C'est une fierté pour moi de te voir devant moi. Parce que tu sais pourquoi?
Parlons de la gestion.
Voilà, et j'ai toujours dit. Non, j'ai toujours dit. J'ai toujours dit que la relève est assurée dans ce pays-là. Mais il faut que l'on apprenne. C'est extrêmement important. Qu'on sache qu'il y a l'État
relève,
et qu'il y a la libre
pourquoi cette relève aujourd'hui, M. Sall, est
on a fait la
révolté.
Libre administration des collectivités pour que les populations apprennent à se prendre en charge, à se défendre. Si les populations n'apprennent pas à se défendre elles-mêmes et que Bamako donne toujours l'impression de pouvoir régler les problèmes des 703 collectivités, etc.,
Monsieur Sall, pourquoi cette population, cette relève est révoltée?
Non, mais moi je ne parle pas de relève. J'ai dit qu'il y a 703 communes. Vous ne m'avez cité que 3 communes sur les 703 communes. Mais j'ai dit aujourd'hui que cela montre la vitalité de la construction démocratique malienne. C'est un processus. J'ai dit que c'est un idéal. Maintenant, le problème de gouvernance. Vous savez, mais vous avez pris Macron. Moi, tout dernièrement, je disais que le Mali était sur le feu. Il faut qu'on se réunisse pour qu'on s'entende. Mais hier, qu'est-ce que le Premier ministre français a dit? Il dit que la France est assise sur un volcan qui gronde. Sur un volcan qui gronde. C'est ce qu'a dit Édouard Philippe hier.
Le Mali.
Non, la France.
Au Mali.
Au Mali, j'ai dit. Donc, on comprend que si vous construisez la construction démocratique, tous ces conflits, toutes ces crises que nous vivons, c'est des crises de croissance. Mais il faudrait qu'on apprenne à comprendre qu'il y a l'État en tant que l'État central et que dans nos constitutions, il y a la libre administration des collectivités et qu'on demande aux collectivités de prendre leurs responsabilités.
Si on doit les former, on les forme, on les encadre. Vous aurez la parole tout de suite, docteur Sissoko.
La première difficulté en termes de conséquences que vous avez, vous le percevez déjà, c'est ce climat de méfiance entre les populations de façon générale et l'État. Je maintiens ce mot et l'État, tout en nous disant que certes nous sommes l'État, nous sommes partie intégrante de l'État, mais que nous n'avons pas les mêmes rôles à jouer au sein de cet État-là. Et qu'aujourd'hui il y a une crise de confiance entre ces populations et ceux qui nous gouvernent. Deuxième conséquence que vous avez, c'est de la défiance. Aujourd'hui, lorsque... Que ça soit au niveau national ou dans les collectivités, lorsque les jeunes se regroupent, par exemple, et prennent des haches, des machettes pour demander le départ d'un préfet ou le départ d'un gouverneur, vous voyez que aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette vitalité de la démocratie dont Dr Sall est en train de parler, mais nous sommes plutôt dans un schéma qui est très dangereux pour notre pays. Et aujourd'hui, c'est ce sentiment de défiance qui est de plus en plus en train de gagner du terrain.
Et jusqu'où peut-elle nous conduire?
Dieu seul le sait. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez, même dans les syndicats, lorsque vous voyez des syndicats réclamer des droits qui sont le plus souvent légitimes, lorsque les syndicats réclament ce droit, ils n'ont gain de cause que lorsque c'est des grèves illimitées, c'est-à-dire l'extrême. C'est quand on va à l'extrême que nous avons des résultats. Lorsque les jeunes demandent le départ de quelqu'un, d'un gouverneur ou d'un préfet, ils n'ont de satisfaction que si ils prennent des haches. Vous voyez ce que ça fait. Donc le développement, l'une des conséquences justement de la manifestation de ces crises, c'est la méfiance, c'est la défiance. Et cette défiance-là aujourd'hui nous a tellement atteint que nous avons fait des revendications violentes un système de gouvernance, un système de revendications légitimes. Et c'est ça aujourd'hui qui est dangereux. Voyez le mouvement social qui est en train de prendre forme autour de la constitution, de la nouvelle constitution, c'est exactement le même cas. Les populations, de façon générale, sont pas d'accord avec ce processus-là et demandent le retrait pur et simple. Les autorités, de façon générale, maintiennent la pression. Eux veulent, coûte que coûte, aller au référendum. Vous voyez aujourd'hui que l'affrontement devient quasiment indispensable entre forces de l'ordre et ceux qui sont prêts à manifester dans les rues. Donc, la relève dont vous êtes en train de parler, dont vous êtes fiers, cette relève n'est plus prête à se laisser faire désormais. Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, la crise ou les crises dans lesquelles nous sommes, crise économique, crise politique, crise sociale dans lesquelles nous sommes, ne sont en réalité que les conséquences de la gouvernance que nous avons connue depuis. Et cette gouvernance, elle ne peut plus continuer, comme l'a dit Macron. Et la jeunesse, aujourd'hui, est déterminée à mettre fin à ce système de gouvernance-là. Et si c'est à travers la violence que nous allons y parvenir, aujourd'hui, nous sommes prêts à affronter qui de droit pour réclamer nos droits les plus légitimes, les plus banals. comme le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit aux infrastructures, le droit au développement, le droit de vivre tout simplement.
Monsieur Théra, vous l'avez dit, cette situation a déjà été réglée à votre niveau, mais quelles sont les mesures prises pour ne pas que ça se reproduise?
Voilà.
Oui, bon, ça c'est, il faut, en premier lieu, sensibiliser, c'est la sensibilisation quoi, qu'il faut, et puis le dialogue, bien sûr, pour réduire vraiment au problème, c'est tout.
Il faut le faire, mais est-ce que vous êtes en train de le faire?
Voilà, donc... Et puis,
Monsieur Théra, vous dites qu'il faut le faire. Est-ce que vous êtes en train de le faire?
On a déjà trouvé vraiment un compromis. Voilà, au problème. Et puis,
quel compromis?
Il s'agit du préfet. C'est pas le préfet qui est concerné. Non? Voilà.
Mais vous dites qu'il y a déjà un compromis. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce compromis?
Bon, je rentrerai pas dans le détail parce que c'est déjà réglé.
Mais monsieur Théra, vous voulez sensibiliser. Nous, on vous offre l'occasion de sensibiliser à travers 60 radios partenaires qui vous écoutent actuellement.
Voilà, j'ai dit, on a pu gérer le problème. Voilà, en tant que représentant de l'État, c'est pas le préfet qui est concerné, non? C'est pas le préfet.
Nous ne disons pas que c'est le préfet qui est concerné, voilà. Mais on veut juste savoir les solutions que vous avez obtenues.
Bon, les solutions, on a pu trouver vraiment les solutions. Voilà.
Docteur Sall.
Quand j'avais ton âge, j'avais pas ces.
On va parler.
Donc, on va parler. Je n'avais pas cette chance de débattre des questions de notre pays comme cela, en toute liberté. Il n'y avait pas 200 radios libres. C'est extraordinaire. Il n'y avait pas les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et je pense que tant qu'on a la possibilité de parler, de dire ce qu'on en pense, il y a ce qu'on appelle, comme outil en démocratie, ce qu'on appelle les cul-de-sac. Quand vous rentrez dans votre tête, vous arrivez au cul-de-sac, au fond du sac, vous allez voir que vous n'arrivez pas à trouver le chemin, vous êtes obligé de rebrousser chemin et de prendre le bon chemin. Mais si c'est un régime de parti unique, ou d'un régime d'exception, de pensée unique, vous allez chercher à déchirer le cul de sac. Et c'est ce qui amène des problèmes.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication également? On le voit avec le préfet, on n'arrive pas à trouver une information avec lui.
J'ai toujours dit qu'il ne faudrait pas qu'on confonde l'information et la communication. L'information est statique, figée, et toujours en retard sur la réalité. La communication, on la vit. C'est dynamique. La communication doit tirer et pousser. Donc vous devez tirer aujourd'hui et pousser. Et ne pas dire, alors qu'est-ce qui s'était passé il y a 2 semaines, il y a 3 semaines.
On est dans un fait maintenant. Comment trouver pour avoir les solutions?
Non, écoutez-moi, les solutions que je t'ai dit, c'est pourquoi la première sortie que j'ai faite, j'ai parlé du traitement du passé. Le traitement du passé, c'est pas autre chose. Comment pouvoir tirer les enseignements de tout ce que notre pays a vécu pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs? Et on a le dernier pilier du traitement du passé, c'est ce qu'on appelle les garanties de non-répétition. Alors quels sont les outils, les mécanismes que nous devons envisager pour que des choses pareilles ne se reproduisent plus, ni à Diré, ni à Gao, ni à Kolandjaba, ni nulle part ailleurs dans notre pays. Moi, je pense que c'est sur ça qu'il faudrait travailler. Et on a dit, les piliers du traitement du passé, c'est quoi? C'est le droit d'abord de savoir. Toi et moi, on est là aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Les gens sont en train de réagir, ça permet aux uns, aux autres et à nous-mêmes de savoir. Le droit à la vérité, il faut qu'on cherche la vérité. Je suis convaincu qu'à la fois les populations de ces villes, de ces communes, à la fois les représentants de l'État, à la fois les autorités traditionnelles, les sages, les médiateurs, vont tirer tous les enseignements, faire des rapports conséquents pour qu'on en tire les enseignements.
Est-ce qu'il suffit seulement de faire
les rapports? Les réparations. Non, les réparations. Mais vous savez, vous êtes en train déjà de juger, alors qu'il y a la présomption.
Je pose des questions, je ne juge pas. Docteur Sissoko, quelles peuvent être les solutions? Vous aurez la parole tout de suite. Continuez. Vous avez eu plus de temps de parole.
Etienne Fakaba et vous-même, chez Touré, vous avez une chance extraordinaire
d'avoir aujourd'hui 200, 300 radios libres, de pouvoir vous mettre en association, de pouvoir dire ce que vous pensez, de tout dire.
Ça, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression.
Vous savez, cette chance énorme que nous avons d'avoir accès à ces moyens de communication ne sert absolument à rien si devant nous n'avons pas d'interlocuteur. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir avec le préfet Terra, c'est exactement la situation partout dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons géré dans la localité de Kolondieba un problème. Aujourd'hui, les autorités disent avoir trouvé des solutions. Le problème a été tellement sérieux que des populations se sont révoltées. Aujourd'hui, le minimum, c'est de rassurer ces populations. C'est de leur dire, voici, devant telle situation, voici la réponse que nous, en tant qu'autorité, nous avons apportée. Aujourd'hui, que le préfet lui-même soit capable de le dire ou pas, ce n'est pas ça la question. Mais aujourd'hui, on devrait être certain, on devrait avoir des éléments d'appréciation fiables pour nous permettre de savoir, voici la réponse exacte que l'État a apportée face à tel problème. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est quoi? C'est que le problème n'a pas été résolu. Le problème a été déplacé. C'est-à-dire on a trouvé simplement des mécanismes pour calmer les gens en attendant une autre tempête. Et tous les problèmes de notre pays, de façon générale, sont gérés de la sorte. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous demander d'user de nos moyens de communication modernes pour être complices de cette façon de gouverner notre pays. C'est ça aujourd'hui la difficulté que nous avons. C'est que nous ne sommes plus prêts, en tant que jeunes, en tant que citoyens, simplement à entretenir un système de gouvernance qui a montré ses limites. Comme vous l'avez dit, nous sommes arrivés au terme justement du sac. Et il nous faut retourner. Voilà. Pour retourner, il nous faut balayer sur notre chemin tous ceux qui sont des obstacles aujourd'hui. Et la gouvernance actuelle est un obstacle sur notre chemin. La gouvernance actuelle est un obstacle pour notre épanouissement. C'est pourquoi, moi, je n'en veux pas à ces jeunes qui ne veulent pas autre chose que d'être entendu, que d'être écouté, que d'être compris. Mais face à un système de gouvernance que l'on entretient dans l'arrogance, dans le mépris, dans le déni, nous ne pouvons pas arriver à des solutions. Il faut continuer à exercer ces pressions-là parce que nous sommes dans un rapport de force. Et aujourd'hui, il faut que les jeunes s'assurent d'avoir les rapports de force de leur côté pour pouvoir se faire entendre tout simplement.
Et qu'est-ce que vous pensez de la réaction de M. Ben Mamata Touré tout de suite qui pense que ça peut être également une solution,
cette révolte? Ça peut être une solution. C'est pourquoi je dis...
Ça peut changer la donne.
Absolument. C'est pourquoi je dis qu'il faut maintenir la pression. Parce que la difficulté, c'est un problème de communication, c'est un problème de dialogue, c'est un déficit de cadre, justement, pour pouvoir discuter de nos problèmes. Et aujourd'hui, avec ces révoltes-là, c'est une façon de dire, vous n'êtes pas en train de faire ce que nous souhaitons. Et nous voulons être beaucoup plus entendus. Et dès l'instant que les premiers résultats de ces révoltes-là vont se faire ressentir, le dialogue s'installera. Et c'est en ce moment que nous pouvons trouver des solutions à nos problèmes. Donc la pression, la révolte populaire, c'est une force pour notre démocratie, certes, mais c'est aussi un moyen pour nous de les faire revenir justement à de meilleurs sentiments et à prendre en compte les préoccupations des populations.
Alors, Monsieur Terra, de la façon dont évoluent les choses, à quoi peut-on s'attendre?
Bon, vous savez, nous cherchons toujours vraiment la paix. Hein? Voilà. En tant que représentant de l'État, on est là pour ça. C'est notre rôle régalien de gérer, en tout cas, des problèmes cruciaux. Voilà.
Merci, donc, M. Terra. Alors, M. Sall, à quoi peut-on s'attendre de la façon dont évoluent les choses?
M. Terra déjà a beaucoup parlé, pour la simple raison qu'il y a la déconcentration et la décentralisation. Lui, il est dans la hiérarchie. Vous comprenez?
Vous avez 30 secondes.
Voilà, il ne peut parler que de ça. Et donc, quand on est dans la décentralisation, c'est qu'il faut mettre en position les populations en position de parler, et ceci est extrêmement important.
Ah, écoutez, c'est pourquoi on dit... Monsieur Sikosso, à quoi peut-on s'attendre? Vous avez eu 15 minutes.
C'est pourquoi on dit, en matière de décentralisation, on dit qu'il ne faut pas donner la tête
et garder la langue à Bamako.
Justement.
Vous donnez la langue aux autorités locales là-bas qui doivent gérer
face à l'évolution de cette situation.
Face à l'évolution de cette situation, il est urgent aujourd'hui que les différentes parties comprennent que le dialogue est la base de tout et qu'aujourd'hui cette situation ne peut plus durer parce que les droits que les populations demandent sont des droits légitimes et que les responsables politiques doivent travailler en cela. Les grandes sociales sont une force pour notre démocratie, aux jeunes de la maintenir, de les maintenir dans cette dynamique pour que véritablement on puisse arriver à des solutions.
Merci. Gestion de l'État, qu'est-ce qui explique la révolte de la population? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Nos invités, Youssouf Tera, préfet de Kolondjeba, Dr Abdoulaye Sall, le président de CRI 2002, et Dr Etienne Fakaba Sissoko, directeur du centre CAPES. Je rappelle que Sidi Mohamed Ag Ishrach, le gouverneur de Kidal, nous a fait fond bon et nos tentatives pour avoir un responsable du ministère de l'administration territoriale sont restées vaines. Je suis Mouhamadou Touré, à la mise en onde Salim Djouara, régie vidéo Péting Diara et ce débat réalisé par Ibrahima Diallo. Merci.
Merci. Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dmondi.
Chenne